RMC Grand Plateau, Georges Quirineau.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans Grand Plateau avant la dernière semaine du Tour d'Italie, du Giro d'Italia, dominé pour l'instant par Jonas Vingegaard qui s'est vêtu de rose. Un Giro qui pour l'instant nous excite pas des masses. Voilà, on va en parler tous ensemble et je pense qu'on est assez d'accord. Bonjour Christophe Cessieux.
Bonjour mon petit Georges, comment ça va?
Ça va?
Ouais, en pleine forme.
Tu t'éclates ou tu roupilles devant le Giro?
Je regarde et tu sais quoi? Pour la première fois depuis le début de la saison, je ne regarde pas toutes les courses.
Ah bah,
toutes
les étapes. C'est super.
Alors que non, c'est bien l'intérêt de ce Giro.
Bah non, mais c'est vrai qu'il est pas. On a connu mieux quoi. Jérôme Pinault, bonjour.
Bon, salut à toutes et à tous.
Jérôme, toi, le Tour d'Italie, c'est ton tour. Donc c'est...
Ouais, c'est mon tour, évidemment. C'est des bons souvenirs à chaque fois.
Ouais, bon, bah, c'est... donc tu t'ennuies jamais.
Non, jamais. À l'inverse de Christophe Cessieux, je regarde toutes les étapes.
Pierre-Yves Leroux, bonjour.
Salut tout le monde, moi aussi je regarde tout, il faisait chaud, c'était impressionnant les dernières étapes et puis je me suis rendu compte que je regardais 4 jours de Dunkerque.
Ah ouais, ouais c'est ça.
Oui, parce que c'est pareil, c'est un maillot rose en plus.
La maglia rosa de Dunkerque. Pierre Cochette est là, salut Pierre.
Salut.
Bon, toi, ça va? Tu kiffes?
Non.
On n'est pas au sommet du kiff, hein?
Non.
Mais c'est pour ça, et je suis sûr que vous, abonnez-vous évidemment sur toutes les plateformes de podcast à Grand Plateau, qui va d'ailleurs changer de nom la semaine prochaine. On va devenir le peloton RMC, vous inquiétez pas, on va pas tout chambouler, mais ça va nous permettre d'élargir la communauté.
Ah, on change les noms comme ça.
Bah, oui, bien sûr. Ouais. À partir de lundi prochain, tu t'appelleras Cyril Guimard.
On fait du naming ou quoi?
On fait du naming, ouais. Ce sera le Christophe Cessieux peloton RMC. Si tu veux, bah, t'as de l'argent à me donner?
Bien sûr.
Ah, là, d'un coup, dès qu'il est question d'oseille, il n'y a plus personne. On va devenir le peloton RMC voilà, pour un petit peu élargir notre communauté aussi. Suivez-nous sur Instagram notamment, ça peut nous permettre aussi d'échanger avec vous directement si vous avez de sujets à nous proposer, si vous voulez réagir aux dernières sorties dingues de Pierre Cochette par exemple ou à Jérôme Pinault qui veut, je sais pas moi, mettre un nouveau truc sur le Tour de France par exemple, je sais pas, une caravane payante.
On pourra suivre par exemple les exploits de Jérôme Pinault qui va partir de Nantes pour aller jusqu'à Barcelone.
Ah
qui compte mettre 3 mois quand même pour y arriver.
Attends,
avant le départ du Tour. Ben ouais.
A priori, mon plan est très mal embarqué.
Ah,
là,
ça y est, on renonce.
Oui, parce que monsieur Cessieux, pour faire le Tour de France, il vous faut un véhicule. Et comme je suis votre chauffeur, il va bien falloir aller chercher cette voiture.
Oh, l'excuse.
C'est nouveau, c'est mon chauffeur.
On peut le faire en tandem. On peut le faire en tandem.
Ah bah. Mon chauffeur, c'est Pierre-Yves Leroux, s'il te plaît. Tu me changes comme ça.
On appelle ça un pilote, monsieur. Un pilote.
Tu remarqueras qu'il n'a pas du tout relevé ta proposition de le faire en tandem. C'est quand même important.
Si, avec mon vélo, c'est si,
oui, d'accord, super. Bon, les amis, le Tour d'Italie, on entre dans la dernière semaine. Hein. Je précise qu'on enregistre lundi ce podcast. Et c'est vrai que, voilà, je le disais en présentation, pour l'instant, on a le Giro, peut-être qu'on imaginait un petit peu, avec un Vingegaard qui est déjà aux commandes du général. Et on va poser une question un peu provoque aujourd'hui qui nous a divisé dans la rédaction. Je vais être transparent, je n'étais pas d'accord pour le faire parce que je trouvais ça hyper, hyper provoque, mais certains d'entre vous m'ont interpellé en disant bah, « Attends, pourquoi pas ?» La question qu'on va se poser, c'est « Est-ce que le Giro est encore le deuxième grand tour ?» Oh, alors là, j'imagine déjà ceux qui nous écoutent, certains complètement abasourdis par notre proposition. Alors Christophe, pourquoi tu trouves que cette proposition finalement est pas si déconnante ?
Mais parce que moi aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'un seul grand tour et que les deux autres sont des petits grands tours et qu'ils sont quasiment du même niveau, que ce soit le Giro ou la Vuelta. Pendant très longtemps, on avait cette hiérarchie, évidemment le Tour de France qui a été la première épreuve créée en 1903, le Giro derrière qui a eu des lettres de noblesse les années 50-60, ce maillot rose qui a vraiment une importance capitale dans la culture même de l'Italie. Et puis la Vuelta, dernier grand tour, créé en 35, qui était vraiment la troisième ou plutôt la cinquième roue du carrosse. Mais le Tour de France est devenu tellement important qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a complètement rabaissé les deux autres, qui se situent à diverses périodes de la saison, un au printemps, l'autre à la fin du mois d'août, et qu'aujourd'hui, ils ont quasiment la même importance. Et ils ont à peu près le même plateau tous les ans. Et que les grands leaders, les grands champions du vélo vont une fois dans leur carrière sur le Giro et une fois sur la Vuelta, juste pour enrichir leur palmarès. Mais ils ne feront pas comme le faisait Eddy Merckx, comme le faisait Coppi, comme le faisaient les grands du vélo, aller gagner 5 fois le Giro comme le Tour de France. Il y a vraiment l'écart, c'est complètement creusé entre le Tour et les deux autres.
Alors, juste peut-être sur l'émotion du moment, parce que peut-être que vous êtes comme nous, là, les auditeurs et auditrices de Grand Plateau. Pierre, alors toi, tu faisais partie de l'équipe. C'est peut-être le Giro le plus chiant qu'on a jamais vécu. On va poser les mots directement.
Ouais, moi, je pense que le Giro reste le deuxième grand tour, mais pas celui de cette année. En tout cas, celui de cette année ne va pas du tout rester dans la mémoire collective parce que y a plein de facteurs qui l'expliquent. La domination de Vingegaard, qui est quand même une domination un peu d'épicier. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il voulait doubler, qu'il voulait en garder le maximum sous la pédale pour le Tour de France.
Et oui, parce que le Tour de France est l'épreuve la plus importante. Et donc le Giro, c'est un...
Voilà, parce que le cyclisme italien va mal, donc les équipes italiennes ne vont pas super non plus, que les meilleurs coureurs italiens sont devenus des seconds couteaux dans les grandes équipes. Je pense à Pigonzoli qui fait toutes les montées pour Vingegaard. Je pense à Pellizzari qui fait pareil pour Jay Hindley, que le plateau n'est quand même pas fou, parce que Vingegaard, même pas à 100%, même pas au top, est quand même une jambe devant tout le monde, et que même la bataille pour le podium n'amène pas grand-chose, en fait.
Ouais, Jérôme, est-ce que tu t'ennuies sur ce Tour d'Italie ?
Je m'ennuie pas parce que je m'attendais à ça. Pour moi, est-ce que le Tour d'Italie est toujours le deuxième grand tour ? Je crois que la réponse, elle est simple. C'est le deuxième, égalité avec la Vuelta. Depuis que la Vuelta a changé de date, depuis que la Vuelta est en août, pour les Italiens, c'est un tour très important. C'est au mois de mai, mais c'est prise de risque pour les grands leaders et c'est session de rattrapage à la Vuelta. Donc, il y a le Tour de France qui aspire tout. Et donc, je ne suis pas surpris du scénario. Ce qui nous manque, c'est quoi ? C'est que parmi ces grands coureurs qui font l'histoire d'un grand tour, qui racontent l'histoire du Tour de France, mais aussi du cyclisme moderne, il y a les Van Der Poel, les Van Aert, les Sexas, les Poggi, les Vingegaard, il n'y en a qu'un de présent. Pidcock qui fait du VTT, il n'y a qu'un mec qui est tête d'affiche, qui est présent au départ de cette course, qui est largement au-dessus des autres dès que la route s'élève, même si au contre-la-montre, il a éprouvé des difficultés. On s'attendait à ça, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Après, quand on regarde le scénar jour après jour, hier à Milan, on s'attendait tous à un sprint et c'est une échappée qui va au bout. Et moi, ça me réjouit.
Oui, oui,
après, évidemment que le scénario global, on pouvait mal imaginer Pigonzoli dans la même équipe Vingegaard et Pellizzari, qui est un bon jeune coureur, mais qui n'est pas Paul Sexas, venir chatouiller le Danois qui s'est fait de ce Giro un objectif principal. On s'ennuie sur le général. En revanche, les étapes sont, à part celle de montagne, assez passionnantes.
Pierre-Yves, tu le trouves passionnant ce Giro ?
Non, évidemment, je ne le trouve pas passionnant, mais c'est souvent le casting, effectivement, qui fait les bons films. Et là, on n'est pas surpris. Voilà. Et après, qu'il fasse une gestion d'épicier, non, il fait une gestion intelligente. Qu'est-ce qu'il gagnerait à gagner les étapes avec 3-4 minutes d'avance ? D'abord, il faut gérer, ça dure 3 semaines, il reste une semaine, on ne sait pas ce qui peut se passer.
La partie la plus dure arrive.
Oui, alors certes, c'est pas très intéressant pour le téléspectateur, mais c'est conjoncturel. On peut très bien se retrouver l'année prochaine ou dans 2 ans avec un casting beaucoup plus intéressant et puis avoir... Faut pas oublier que sur les 10 dernières années, on a quand même eu des Giro qui étaient passionnants, qui jouaient à coups de seconde, donc ça peut revenir éventuellement. Après, c'est vrai que le calendrier aujourd'hui pour le Giro est vraiment défavorable et c'est pas une surprise si des garçons comme Pogacar il y a encore 2 ans je crois demandaient un déplacement de date.
Ben là non, c'était en décembre. Sauf là. C'était en décembre dernier.
Encore.
Bah oui, c'est encore plus récent, voilà. Mais le problème, c'est qu'on a aussi beaucoup d'économiques là-dessus et que le Tour de France n'a pas envie de bouger. On en parlera
surtout,
évidemment,
surtout
parce qu'en 2028, et la Vuelta a trouvé une bonne date. Donc, ça va être très compliqué pour le Giro dans les années à venir.
Oui, je pense que le Tour de France, effectivement, écrase tout. Mais ce qui aussi fait beaucoup de tort au Giro, c'est l'importance, compris les classiques, pour les coureurs qui étaient avant...
Oui.
Coureurs de grand tour.
Ben, si, évidemment.
Et on se rend compte que maintenant, ces coureurs dits de grand tour, ils ont envie de briller à Liège. Ils ont envie, même maintenant, Remco fait le Tour des Flandres, Roubaix. Et que du coup, si tu te prépares pour les classiques en avril, c'est quand même plus compliqué d'être au top en mai et de faire tes trois semaines au top niveau, sachant que tu es censé partir en Alpes.
Non, mais c'est ce qu'on se disait avec Christophe en préparant le podcast, c'est-à-dire que peut-être aussi que notre sentiment aujourd'hui, l'émotion qu'on n'a pas pour le Giro, il est aussi biaisé par le fait qu'on a pris un tel shot d'adrénaline avec les monuments cette année, juste avant, tous les monuments avec la présence de toutes les stars, que là, on a l'impression que le soufflet retombe d'une manière folle sur le Giro, peut-être qu'on l'a pas vu depuis plusieurs années, quoi.
Et tu l'as dit, en plus, la date, mais aussi le casting et puis les effets d'annonce. On a quand même la plus grande nouvelle du début du mois de mai.
C'est
normalement, c'est le départ du Giro. Bah non, là, c'est Paul Sexas vient sur le Tour. Il a effacé tout le reste.
Ouais, pour la France, en tout cas.
Mais même partout, on a tous hâte d'être au départ du Tour de France avec Van Aert, Van Der Poel, Pidcock, Pogacar, Vingegaard, Sexas. Terminé. Donc à partir de là, et Evenepoel. Et donc là, le film, il était fait. C'est-à-dire que le Giro, vite que ça passe, parce que ça sera bientôt en juillet. C'est dans la tête de tout le monde. Même nous, les garçons, à traiter le Giro comme on le traite aujourd'hui, on regarde, mais on se dit vivement juillet pour que Vingegaard, dans cette forme-là, vienne embêter Poggi. On va voir ce que ça va donner. On est en train d'analyser étape par étape en disant, avec ces watts-là, est-ce que Paul Sexas peut le suivre ? On en est déjà là, donc on est déjà en juillet.
Mais alors, en fait, moi je me posais la question, là, parce qu'on réfléchit en échangeant justement, mais Vingegaard et Pogacar, quand ils viennent sur le Giro, finalement, est-ce qu'ils participent pas à déclasser le Tour d'Italie ? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils
faut qu'ils y viennent ensemble.
Non, mais on a l'impression qu'ils viennent pour cocher une case et ensuite faire le doublé, en fait. C'est-à-dire que c'est la route vers le doublé qui rend leur participation intéressante, finalement.
Mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on a un tel plateau sur les classiques, mais c'est aussi parce que gagner un grand tour, c'est très difficile et que ce sont souvent les mêmes qui gagnent. Ils sont quoi ? Ils sont 3, 4 sur les 5 dernières années à être allés chercher les grands tours. Donc, si vous voulez briller, aller étoffer votre palmarès, vous allez sur les classiques un peu plus. Ça changera peut-être dans les années à venir, à moins qu'on ait à nouveau un garçon qui mange tout, mais je pense pas. À un moment, on va avoir un peu plus d'équilibre dans les forces aussi. Donc ça fait partie aussi du challenge pour les années à venir. Maintenant, moi, je suis pas... Enfin, voilà, il faut pas oublier qu'un grand tour, c'est long, ça dure 3 semaines, c'est pas le même plaisir. N'oubliez pas que sur le Tour de France, au bout de 10 jours, des fois, c'est plié et qu'on se... Hein ? Voilà, faut pas l'oublier, ça, non plus.
Je suis d'accord, mais là, il y a quand même une conjonction de facteurs qui fait que toutes les... Il y a le général, mais il y a aussi... Et ça, c'est important dans un grand tour, toutes les batailles annexes. Bataille pour le maillot blanc, bataille pour le podium, bataille pour le maillot de meilleur sprinter, etc., etc. Et là, tout est un peu anesthésié, pour des raisons assez différentes. Mais la bataille pour le meilleur jeune, elle a un peu sauté à partir du moment où Vingegaard a donné autant de temps à Eulalio. Pour ne pas avoir à se fader le maillot rose.
Il y a que le maillot cyclamen
qui est un peu improbable.
Ouais, entre un sprinter et un baroudeur. Quoi,
c'est... Voilà. Qui donne un truc un peu marrant, effectivement. Mais sinon, la bataille pour la montagne, tout le monde s'en fout. Hein. Ouais. Donc ça laisse pas beaucoup de choses annexes quand même pour s'enthousiasmer.
Non mais est-ce qu'il y a un problème avec le parcours aussi sur ce Giro ? Il y avait ce long contre-la-montre de 60 km qui finalement a pas 60 km 40 qui a pas anesthésié le général comme on l'imaginait, parce que Vingegaard n'a pas frappé un grand coup. On avait l'impression que ce tracé il était fait pour Remco Evenepoel qui est pas venu finalement sur le Tour d'Italie.
Mais je trouve que les organisateurs du Giro vont moins chercher des petites pépites comme le font les organisateurs du Tour de France depuis quelques années.
Et même du Tour d'Espagne.
Où ils pimentent un peu le parcours. D'autant qu'en Italie, ils ont quand même un terrain de jeu qui est encore plus beau que le terrain de jeu du Tour de France. Tu as de la montagne partout en Italie, tu as des côtes un peu partout et tu pourrais pimenter le parcours. Là, il est d'un classicisme. On dirait un Tour de France dessiné par Jean-Marie Leblanc dans les années 90, le Tour d'Italie aujourd'hui. Franchement, c'est linéaire. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'étape qui te donne envie de regarder plus que ça.
Jérôme. C'est de la façon dont on le regarde, Christophe. Il n'y a eu que 3 sprints. Donc il y a évidemment du suspense tous les jours. Manier, il est à la lutte avec Jonathan Narvaez. Narvaez, c'est un puncher et lui, c'est un grimpeur. C'est signe que ce maillot cyclamen, il a été distribué entre deux types de coureurs complètement différents. Donc c'est faux. Il y a des étapes pour les punchers. Il y a des étapes pour les surprises. Hier à Milan, mais c'est la faiblesse du plateau. Ouais, on n'oublie pas non plus que la loto a eu un grand coup de moins bien parce qu'ils sont tombés malades et que Delhi est parti chez lui avant même d'avoir mis les roues en Italie. Que l'UAE a eu beaucoup de chutes et qu'ils ne sont plus que 4, même s'ils gagnent beaucoup d'étapes. Il y a aussi eu des circonstances qui font qu'il y a moins de suspense dans les étapes. Mais malgré tout, moi, je trouve que vous êtes dur. Il y a quand même pas... il y a juste un truc, ça, c'est sûr. Je ne sais pas ce qui est venu foutre ce chrono de 40 bornes aller-retour sur la même route en plein milieu du Giro pour tuer le suspense. Là, je ne l'ai pas. Mais sinon, le reste, c'est quand même... Ils exploitent le terrain qui est propice à ça en Italie. La preuve, le maillot s'y clamène. Après, quand on regarde le départ et la liste de départ, bah évidemment, il y a un garçon, s'il est prêt, il est injouable. Il s'appelle Vingegaard et il va gagner le Giro facile.
Non mais est-ce que justement on marche pas un peu à l'émotion là sur le Tour d'Italie et sur un déclassement potentiel? Tu disais Pierre-Yves tout à l'heure, on a eu quand même des Giro où il s'est passé des choses. L'année dernière, la victoire de Simon Yates qui renverse Isaac Del Toro. Alors oui, effectivement, c'est pas les cadors du peloton qui se battaient pour la victoire finale. En 2024, évidemment, on a eu la victoire écrasante de Pogacar avec 10 minutes d'avance. En 2023, Roglic qui gagne devant Geraint Thomas, c'était très chaud jusqu'à la fin, souvenez-vous. Oui. En 2022, Jay Hindley face à Carapaz, c'était moins fun, on va dire, pour le grand public. Après, on a eu Egan Bernal en 2021 qui s'impose. Damiano Caruso, c'est le dernier podium italien. Hein. Tu parlais de la forme du cyclisme italien. C'est aussi qu'on ne les voit pas se battre pour la victoire finale depuis un petit moment. Goggenhart en 2020 qui s'impose. Nibali, deuxième en 2019 et qui gagne le dernier vainqueur italien en 2016. Mais c'est vrai qu'avant, je me rappelle, il y a encore...
Quintana du Moulin,
non mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a 5-6 ans, on avait encore quand même des trucs qui se passaient, avec Contador qui venait, avec Froome, avec Dumoulin qui était là, des garçons qui venaient vraiment pour faire le Giro, Quintana qui venait avec une représentation de ce maillot rose qui était vraiment très importante. On a l'impression que c'est plus un temps de passage aujourd'hui qu'il y a quelques années. Est-ce qu'il y a, au-delà de la situation conjoncturelle que tu as décrit Pierre, est-ce qu'il y a un désintérêt, on le sent, des coureurs, des plus grands coureurs pour cette course?
Ben, ça ne sera pas la priorité. Félix Gall, il est là parce que il ne sera pas
parce que top c'est niveau, de patron, voilà.
Parce que en fait, tu fais ton programme en fonction du tour, ensuite tu fais ton programme en fonction des classiques, et ensuite tu vois ce que tu mets entre les deux.
Et plus qu'avant, aujourd'hui, il se passe quelque chose quand même.
Il se passe quelque chose avec les classiques.
Pas la même, ouais.
Il se passe quelque chose avec les classiques, donc forcément, je suis persuadé que Remco Evenepoel Le Remco d'il y a deux ans où les classiques n'étaient pas une option, ce Giro-là, il le faisait. Il le faisait pour le gagner, pour avoir deux grands tours. Il y a l'effet. Je pense que pour Remco et pour la Red Bull, c'est plus important de faire quelque chose, de faire un podium sur les Flandres.
C'est plus important de perdre sur les Flandres que d'espérer gagner sur le Giro.
Voilà.
Jérôme, c'est fou quand même.
Bah non, moi je suis qu'à moitié d'accord avec vous. C'est juste qu'il faut en fait reprendre l'histoire. Et quand par exemple Ivan Basso gagne en 2010, il n'y a que lui au départ parmi les grands. Donc il gagne. Vous avez cité l'histoire récente de ce Giro, il y a toujours eu deux acteurs principaux. Même si c'était des outsiders, ils avaient à peu près le même niveau.
Bon, à part Pogacar en 2024 qui avait 10 minutes d'avance.
Et quand c'est comme ça et qu'il y en a un parmi ces GOAT-là qui vient et pas les autres, il n'y a plus de spectacle sur le classement général. Mais ensuite, sur les étapes, encore une fois, je trouve qu'il y a du spectacle. On a vu différents vainqueurs, il y a de la baston, les sprints arrivent pas toujours. Regardez hier, ils se sont complètement troués. Est-ce que c'est dû à la faiblesse d'un peloton? Peut-être, mais c'est surtout dû à certains coureurs qui ont peut-être sur le Giro une fenêtre de tir qu'ils n'auront pas ailleurs. C'est aussi peut-être la problématique aux coureurs, à eux, de prendre leurs responsabilités et de se dire d'aller au tour. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux briller sur une course ou je veux passer inaperçu sur une autre? Mais le casting est meilleur, donc c'est la plus grande course du monde. Bon, voilà, il y a le petit Eulalio sur le tour, ça ne lui arrivera jamais. Il a pris sa chance, il y est arrivé.
Eulalio, on lui a donné ces 6 minutes.
Il faut s'échapper, Pierrot. On ne lui a pas donné, on ne lui a pas dit ce matin, tu vas l'échapper, on va te laisser partir.
Ce sera pour toi.
Des fois, on ramène à la facilité la plus simple de trouver une échappée et de faire tout à l'avant dans un grand tour. Les mecs, il faut avoir un niveau, sinon ils veulent tous le faire.
Bien sûr qu'il est fort. J'ai
l'impression que Jérôme va faire un truc sur le Giro.
L'étape, c'est quand même la fameuse étape de l'Alio. C'est des conditions météo horribles. le peloton et notamment Jonas Vingegaard qui prend zéro risque et qui dit tu veux prendre 6 minutes et que ça soit Eulalio ou Arrieta.
Oui, pareil, mais hein. Il allait chercher effectivement
ils sont
personne lui a donné le matin.
Mais ils sont tombés deux fois chacun et ils finissent avec 6 minutes d'avance. Et
pas l'étape invraisemblable. D'ailleurs, peut-être
mais
la plus intéressante depuis le début de l'année.
Regarde l'autre jour, la victoire de Bettiol.
Elle est folle, mais aujourd'hui, dans le cyclisme actuel, on n'a plus que des superstars. Et quand on n'a pas un duel entre superstars, eh bien, ça perd de son intérêt. Des Bettiol, c'est des formidables coureurs. Eulalio est allé le chercher vraiment à la pédale. Enfin, je veux dire, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, on est tellement habitué aux batailles entre superstars.
Mais ça dépend qui, Christophe. Tout le monde, je ne pense pas.
Peut-être pas.
T'es blasé. Il y a des émotions quand même dans des arrivées, celle d'hier encore, avec un suspense incroyable sur la fin.
Ouais, et grâce au bah oui, bah si les motos en plus se mettent.
Mais non, mais ça y est, c'est toujours la faute de l'arbitre.
Mais non, mais en fait, c'est intéressant. Ce que tu dis, est-ce que Pogacar nous a déréglé en fait? Est-ce que les stars ont
peu déréglé?
Bien sûr.
Jérôme,
et c'est ce que je voulais dire avec Chris. Et j'entends mon pilou rigoler d'ici parce que Chris, combien de fois tu raccroches à la fin du tour et tu dis on s'est fiché aujourd'hui sur des parce que c'est toujours les mêmes qui dominent. Et là, ça change. Il y a du spectacle, il y a du temps, il y a des chutes et machin. Et on n'est pas content encore parce que le traitement que l'on fait de cette course n'est pas la même parce qu'on n'a pas les grands pour se battre. Et évidemment, ça nous embête quand c'est toujours le même qui gagne, mais on aime bien quand même présenter un casting où il y a tous les meilleurs.
Ben oui.
Dans notre réflexion sur essayer de comprendre pourquoi aussi le casting il est comme ça, et je propose une analyse de boomer peut-être. Mais,
alors je vais être d'accord
Jérôme,
avec toi. Vous,
non mais Jérôme peut-être sera d'accord aussi. Parce que
je suis un boomer aussi.
Non mais
moi, tu sais. Vous,
est-ce que la nouvelle génération a moins aussi cette accroche historique avec ce Giro, qu'elle comprend, le côté romantique, tout son passé, voilà. Est-ce que ça attire moins aussi parce que aussi il y a la pression des sponsors. Ce qui va plus sur le Tour de France que sur le Giro, c'est pas du Thibaut Pinot, c'est pas du Jérôme Pinot. Tiens, pour rester dans la famille, vous aimiez ce Tour.
On avait la conscience de ce qu'était l'histoire du vélo et que l'Italie et le
Giro
avaient.
Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il est.
Non, Thibaut, il aimait ces routes-là, il aimait un peu moins de pression,
moins de pression sur le Giro que sur le Tour de France. Hein.
C'est moins le cas aujourd'hui. Moi, j'ai été volontaire. Mais qui sont volontaires aujourd'hui? Les coureurs français volontaires pour aller au Giro, ils savent qu'ils se mettent une balle dans le pied de pas faire le Tour. Alors que quand tu es un bon coureur, tu peux facilement enchaîner les deux. Je l'ai fait, j'étais pas un bon coureur, mais tu peux aller faire les deux grands tours avec... Moi, je voulais participer au Giro parce que ça me faisait rêver, parce que Moser, Coppi, Bartali...
Mais
ces gamins-là, ils n'ont plus ça. Ils l'ont plus. Mais moi,
t'es sûr,
je suis arrivé
Jérôme.
Sur le Giro, j'ai écrit un livre sur mes journées passées en Italie. Le maillot rose, la couleur, les tifosi. Aujourd'hui, on voit ils ont des watts, ils ont des résultats. Ils ont des... Oh, regarde l'autre chose. On parle de cette folie du Giro. Et Marc Madiou m'en voudra pas. L'autre jour, ils ont gâché une occasion énorme d'aller gagner une étape parce qu'ils n'ont pas su s'inventer. Les trois coureurs de la Groupama FDJ présents dans l'échappée ont fait du sky. Il y en a un qui roule pour un autre, puis après, ils pètent comme un pop-corn. Inventer des choses, le Giro, c'est fait pour ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement dans des cadres, avec des watts, avec des choses, qu'on en oublie un peu le côté sexy de la course à laquelle on participe. Et les gamins ont fait exactement sur un Giro que ce qu'ils auraient fait sur un Tour de Suisse ou sur une étape de n'importe quelle autre course.
Il y a combien de coureurs français cette année?
Très peu.
Oui, mais attendez. Est-ce que c'est vraiment un phénomène nouveau, ça? On a toujours eu la plupart des coureurs français sur le Tour de France. Jérôme Coppel n'a jamais fait le Giro.
La différence, c'est qu'on avait, dans les équipes françaises, il y avait quand même quelques coureurs français. Aujourd'hui, il n'y a que la Groupama FDJ qui amène des coureurs français
Je ne suis pas sûr que
Jérôme Coppel n'a jamais fait le Giro parce que son équipe n'était pas invitée non plus à chaque fois. Attention. Et quand il était chez FDJ, fallait aller au Tour de France. C'est ça que je veux te dire, Georges. C'est qu'aujourd'hui, les gamins, ils veulent tous aller au Tour de France. Mais quand t'es pas Paul Sexas, va faire le Giro, t'as l'opportunité.
Et comme
tu
le disais en antenne, parce qu'il avait pas le niveau non plus.
Non mais moi je vous trouve un peu dur là, le clan des boomers là, sur le désintérêt peut-être des jeunes coureurs, parce que vous êtes toujours comme ça hein, les boomers à dire de toute façon les jeunes ils s'intéressent plus à rien, ils s'intéressent plus à l'histoire, ils peuvent plus regarder une longue course.
Désolé,
mais c'est pas forcément vrai.
Je pose la question.
Non mais aujourd'hui le maillot rose. de par ce qu'il représente. On rappelle, cette course, elle existe depuis 1909. Par exemple, la Vuelta est une course beaucoup plus récente. Elle date de 1935. C'est un maillot qui a beaucoup évolué. Par exemple, le maillot rouge, oui, c'est un truc assez récent. Dire, ça a une dizaine d'années. Ça a été jaune, le maillot des oraux, le maillot orange, ouais, le maillot jaune avant. Le maillot rose, oui, pour les coureurs, il signifie quand même quelque chose. Même pour Vingegaard, qui met le maillot rose pour la première fois, ça veut dire quelque chose pour lui. Même pour Paul Magnier, on aura l'occasion de parler avec lui, d'ailleurs, dans Grand Plateau. Ça veut dire quelque chose d'aller sur les routes italiennes. Moi, je vous trouve un peu dur quand même sur ça.
Non, mais c'est exactement ce que je te dis. C'est que moi, quand j'entends Pierre qui dit « fait un duro d'épicier », bah pas tellement, parce que s'il veut vraiment faire l'épicier, il va le prendre dans 4 jours, le maillot rose. Il n'est pas obligé de le prendre hier. Hein.
Non, mais
il a ces valeurs-là aussi. Il a envie d'avoir ce maillot. C'est la dernière course qui pue le passé, le Tour d'Italie.
Bah, avec le Tour de France, oui.
Avec le Tour de France qui est au-dessus et qui s'invente une histoire chaque année. Mais pour un jeune coureur cycliste, faire de Tour d'Italie et participer à ce Tour d'Italie, ça a beaucoup plus de valeur que la Vuelta.
Mais
c'est
les
pour
gars,
ça que pour moi, le Giro reste au-dessus de la Vuelta.
Mais si à la fin de sa carrière, Tadej Pogacar n'a jamais remporté la Vuelta, personne ne lui en voudra, franchement. Enfin, vous pensez qu'on va lui en vouloir? Alors que s'il n'avait jamais remporté le Giro mais gagné la Vuelta, on dirait, ah quand même, il lui manque un maillot rose. On l'a jamais vu en rose, Pogacar. Non mais Pierre, t'es pas d'accord? Moi, je trouve quand même que le poids de l'histoire du Giro fait que, même si les performances sportives actuelles mettent le Giro et la Vuelta peut-être un peu plus en touche-touche, fait que le Giro sera quand même toujours devant. Alors, peut-être c'est parce que nous, on est accroché à l'histoire et les jeunes le font moins, je sais pas.
Il y a un peu de ça, et puis il y a que Pogacar, il vient de Slovénie, c'est quand même pas très loin pour aller voir passer le Giro. Juste à côté, t'es plus nourri de ça que...
Mais Vingegaard, tu penses qu'il sera pas plus content de gagner le Tour d'Italie que le Tour d'Espagne, là, cette année? T'es pas sûr?
Alors là, franchement, je suis pas sûr. Il avait l'air bien content de gagner le Tour d'Espagne quand même l'année dernière.
Il avait l'air bien content d'arriver à Madrid déjà, vu les conditions.
Alors ça, c'est l'autre truc. Et pourquoi je pense que c'est moins sexy le Giro cette année? Il fait beaucoup trop beau. Regarde, la seule étape un peu folle, c'est celle où il y a des conditions météo horribles. Et que la légende du Giro.
Ouais, l'étape en Bulgarie, la deuxième, Pierrot, il faisait pas très beau non plus.
Ah ouais, mais c'était en Bulgarie.
Demande au coureur, tu vas voir.
Non, ça, on a vu.
Il reste la dernière semaine. Hein. Moi, j'ai passé
la canicule dans les Dolomites, ce serait magnifique, ça.
Ouais, ou la neige. Parce que
il a raison, Pierre. Les grandes images du Giro, les grandes épopées du Giro, c'est la neige, c'est le Stelvio.
Le Mortirolo, le Stelvio.
C'est copie, c'est fou.
Avec la neige sur les Dolomites.
À condition de ne pas annuler ou d'écourter les étapes. Tous les ans, depuis 10 ans ou quasiment, il y a une étape qui est écourtée. Je dirais pas annulée. Je crois que la dernière, Jérôme, t'y était d'ailleurs. Ça doit être en 2013 où elle est.
Excusez-moi, ça arrive sur le Tour de France aussi. Hein. Souvenez-vous de l'étape où Thibaut Pinot abandonne et perd le maillot jaune. C'est quoi, il faut un bon Giro, c'est forcément un Giro sous la neige?
Non, il faut des ingrédients, il faut du suspense, il faut que ça change et il faut de la bataille. Et évidemment qu'avec un mec qui domine au général, qui a une semaine de l'arrivée, on l'a déjà presque donné vainqueur. S'il n'y a pas des coups de Trafalgar, rappelez-vous la chute... du coureur hollandais, j'oublie son nom.
Kruiswijk.
Il n'a pas les bonnes lunettes. Il fonce dans le mur de neige. Voilà, tout ça fait partie du Giro.
Le simple.
Il n'y a pas ça pour l'instant, évidemment.
Je pense que si on nous propose à tous, est-ce que tu préférerais aller suivre en tant que journaliste ou consultant le Giro ou la Vuelta? Tout le monde dirait le Giro.
Mais par le
pas de l'histoire.
Par la pasta.
Moi, j'y vais pour les tapas, c'est le chorizo, je vous le dis direct. Hein. on l'a un petit peu évoqué au début. On peut en parler. La proposition de Pogacar fin décembre, d'inverser, parce que c'est pas n'importe qui, je suis désolé, c'est pas Victor Campenaerts qui l'a dit, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui et sa moustache. Mais Tadej Pogacar qui propose peut-être d'inverser le Giro et la Vuelta. J'ai les déclarations devant moi. Ce serait bien mieux en termes de conditions météorologiques et du nombre de cyclistes qui pourraient participer. Il peut faire froid au Giro en mai, il peut faire très chaud en août en Espagne. Voilà ce qu'avait dit Pogacar, qui, je vous rappelle, n'a participé qu'une fois au Giro. Tout comme il n'a participé qu'une fois à la Vuelta, d'ailleurs, en 2019. Réponse du patron de la RCS, donc les organisateurs du Giro, Paolo Bellino. Nous n'avons même pas envisagé cette idée. Le Giro se déroule traditionnellement en mai. Nous n'allons rien changer. Le Giro s'est déroulé en mai à 109 reprises. Il y a une seule exception, c'est la pandémie du Covid, évidemment. Est-ce que, franchement, ce serait une piste pas si bête que nous propose Tadej Pogacar pour que l'intérêt pour les deux autres grands tours soit plus important, en tout cas que le Tour de France soit moins écrasant, peut-être. Jérôme, t'en penses quoi?
Bon, moi, j'en pense qu'il ne faut pas changer les dates, que quand on a envie de remplir son palmarès, eh ben, on passe par différentes étapes. Poggi, il a gagné d'y retour sans forcer et que l'histoire fait qu'on ne va pas changer parce qu'un coureur qui actuellement domine et ne va pas durer des décennies choisit de faire de changer le calendrier et que la Vuelta ait changé et que la Vuelta soit passée après le Tour. Je trouve ça fabuleux parce que c'est une séance de rattrapage, que certains jeunes coureurs peuvent commencer par celle-ci. C'est au mois d'août, c'est très bien. Mais changer la date parce que comme ça, on aura plus de monde, parce que comme ça, il fera meilleur. Non. L'histoire, c'est du vélo, c'est aussi des mauvais temps, des descentes dangereuses, un Giro au mois de mai avec les tifosi dehors.
Enfin, après, c'est aussi l'évolution de la planète, Jérôme. Hein. C'est-à-dire que faire la Vuelta sous plus de 40 degrés, à un moment donné, ça va quand même poser problème.
Oui, mais si tu veux par là, c'est qu'il peut te dire aussi, du coup, on va faire Paris-Roubaix un peu plus tôt parce que comme ça, si je tombe, j'aurai le temps de récupérer pour... Non, en fait, c'est comme ça, le calendrier, c'est le menu. Tu fais avec, tu fais pas avec, mais en tout cas, tu vas pas tout changer
gars,
à chaque fois.
Un Tour d'Italie à la fin de l'été, là, à la rentrée.
Moi, je trouve que
j'aimerais bien.
À la proposition avant la Lombardie de Tadej Pogacar, hors prise en compte de Tadej Pogacar, je la trouve extrêmement rationnelle d'un point de vue météo, d'un point de vue, je la trouve rationnelle. Elle fait sens. Après, que d'un point de vue des organisateurs, des sponsors, de gens attachés à les traditions, que je peux aussi tout à fait comprendre comme Jérôme, bah oui, ça fait pas sens. Mais si tu regardes les choses froidement, de façon rationnelle, avec ton petit tableau Excel des températures...
Tu as demandé au Tour de France de le faire en août, parce qu'il fait meilleur en août qu'en juillet, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Ça marche pas. Hein.
Je crois pas qu'il fasse meilleur en août.
En Italie, il peut faire très chaud en août.
Oui,
hein.
Si tu vas dans les Pouilles ou en Sardaigne ou en Sicile au mois d'août, tu auras les mêmes conditions qu'en Espagne. Hein.
Ouais, en Andalousie, bon, ça va, mais effectivement, il fera chaud. Quoi qu'il arrive, il fera chaud en fait. Mais,
les Pouilles, c'est 40 degrés l'été. Hein, c'est la même chose. Hein. T'es à la même latitude du sud de l'Espagne et du sud de l'Italie. Il fait les mêmes températures.
Est-ce qu'il vaut faire le Tour d'Espagne en décembre pendant les fêtes? T'imagines, t'arrives à Noël à l'Angliru. Allez, joyeux Noël.
Après, c'est pareil, si tu vas autour d'Espagne, si tu fais des étapes dans le nord de l'Espagne au mois d'avril, tu risques d'avoir les mêmes conditions que... Alors, c'est peut-être un peu moins haut
là,
que...
tu vas en Galice et tout ça, c'est vrai que tu vas avoir des étapes glissantes.
Ouais.
Non, mais bon, toi, Pierre-Yves, il ne faut pas toucher.
Dans l'idéal, s'il y avait un seul organisateur, eh bien, tous les ans, vous changeriez. Voilà, vous feriez une année en juillet, une année en août, et puis tout le monde serait content, et puis les spectateurs seraient aussi
mais quoi,
contents.
Ouais, quoi, tu mets le Tour de France,
le Tour de France à la fin du mois d'août.
Bah, t'es complètement malade, toi.
C'est comme Pogacar. Mais bien sûr que personne ne voudra le faire. Mais voilà, ça pourrait être une solution amusante.
Ton accréditation sur le Tour de France va être annulée par quelqu'un plus.
Il y a déjà eu un Tour de France en septembre, il a plutôt bien marché.
Ouais, on
pourrait. Mais oui, mais oui.
Avec le verglas d'été.
Oui. La proposition de Pogacar, elle ne tient pas plus que celle-ci finalement. Ça ne bougera pas. Mais oui, voilà, ça restera comme ça. Et j'ai envie de dire, tant pis pour les Espagnols et les Italiens. Et puis on verra ce que dans l'avenir on nous proposera aussi la météo. Quand on voit la chaleur du mois de mai actuellement, voilà, il y a pas de solution parfaite de toute façon.
Vous savez ce qui m'embête le plus, moi, finalement, dans cette histoire, c'est que Vingegaard, j'ai l'impression, il est venu pour la première fois là sur le Giro, il va le gagner, il reviendra pas.
Ouais.
Pogacar, il est venu sur le Giro, il a gagné. Pas sûr qu'il y revienne.
C'est pas grave si l'année prochaine on est le Giro entre outsiders et qu'il y a beaucoup plus de suspense pour le général, on sera content.
Non, mais oui, mais bon, en même temps, on a envie de voir les stars y aller aussi. Comme Merckx qui y est allé plusieurs fois. Merckx, il a fait le Giro 8 fois, il a gagné 5 fois. Bernardino l'a fait 3 fois, il a gagné 3 fois. Indurain l'a fait 3 fois, il a gagné 2 fois.
Non, on est dans le boomer total.
Mais attendez, mais comment ça, boomer, les gars?
Il fallait les faire les 3 semaines quand même, Jérôme. Tu dis, c'est pas le même vélo, mais il fallait quand même faire les efforts d'aller enchaîner le Tour de France et
ça
le Tour d'Italie.
Ça va moins vite, il y a moins d'adversité, c'est plus du tout pareil. Aujourd'hui, regarde, Jane Lake a gagné un Giro, aujourd'hui, c'est un sous-fif sur le vélo. Parce que ça va beaucoup plus vite, parce que tu n'as plus le droit à l'erreur, parce que les préparations sont différentes. Et aujourd'hui, pour aller sur un grand tour, je pense qu'Eddy Merckx, sur toutes ses victoires, le grand Eddy Merckx qu'il était, il n'a pas fait... il a dû en gagner un où il était à 100% de sa forme. Sinon, il pouvait se permettre d'arriver à 70% et gagner. Aujourd'hui, on me dit Vingegaard, il est en train de monter en pression.
Il a gagné, comme Vingegaard.
Je pense qu'il ne doit pas quand même être loin de ses meilleurs scores et on verra s'il est encore plus fort en juillet. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il est prêt et qu'il va gagner cette course aisément. Mais c'est la concurrence et la densité de champions au départ, elle est quand même énorme. Même si ce n'est pas des grands... Et qui ne peuvent pas chatouiller Vingegaard, il y a quand même de très bons coureurs dans ces Giro.
J'ai pas l'impression qu'il soit à 100%, moi. T'as l'impression qu'il est vraiment à fond, là? Non, il gère.
C'est une super prépa, magnifique. Voilà, le Giro, c'est une préparation pour le Tour de France maintenant, pour Vingegaard. C'est ça qui est terrible.
Moi, je pense qu'il ne doit pas être loin de son meilleur niveau. Je pense.
Tu penses qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau là actuellement?
Ah bah oui, il essaye de nous vendre le contraire, mais je pense qu'il ne doit pas en être loin.
Ouais. Moi je ne suis pas d'accord, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lundi prochain à l'arrivée à Rome pour faire le bilan de ce Tour d'Italie. On pourra dresser le bilan du Giro de Jonas Vingegaard et de la projection au prochain Tour de France. Voilà les gars, est-ce que le Giro est encore le deuxième grand tour? J'ai compris en écoutant Jérôme, à égalité avec la Volta. Pour moi c'est toujours le deuxième tout seul, je vous le dis devant la Volta, par le poids de l'histoire.
Tes origines espagnoles n'ont pas réussi
mais oui,
à
mais
la différence.
Je sais pas. Moi, c'est le maillot, quoi. J'avoue, le maillot.
Je suis d'accord avec toi, le maillot.
J'aime bien l'Angli roux, j'aime bien la Bola del Mundo et tout ça, c'est très très bien. Mais j'ai l'impression que la Vuelta, c'est toujours le tour de rattrapage, en fait. C'est le tour de rattrapage qu'on peut arrêter parce qu'on se dit « Oh bah tiens, il y a le championnat du monde derrière, finalement, je fais une semaine. » Terminado.
C'est la préparation pour la fin de saison ou c'est une séance de rattrapage pour ceux qui ne vont pas se rattraper?
Mais c'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'on voit souvent les stars du peloton, justement ceux qui n'ont pas réussi à aller sur la Volta pour aller chercher le petit bonus et faire quelque chose. Bon, normalement, quand on fait ce genre de podcast, ce qui se passe, c'est que la dernière semaine du Giro est absolument incroyable.
Du coup, on n'a pas parlé de sportif du tout sur la deuxième semaine du Giro.
Mais parce que Vingegaard est devant.
Le seul podcast où on ne parle pas de sportif, finalement. Mais parce qu'il se passe rien. Parce qu'il s'est rien passé.
C'est incroyable, il a réclamé ce podcast. Et après il dit mais qu'est-ce que c'est que ce sujet?
Mais c'est pour vous dire que ça n'a aucun intérêt. C'est pour vous dire que la bataille sportive.
Mais si, ça a un intérêt, non, tu vas voir quand Pellizzari va renverser Vingegaard avec une échappée de 10 minutes. Ça va être une folie, Félix Gall va partir sur le plat. Ça va être
planter
incroyable
tomates, moi,
et Vingegaard va terminer 4e. Et Mathis Rondel finalement sera le premier français à s'imposer depuis Laurent Fignon, depuis Bernard Hinault d'ailleurs, 89, dernier vainqueur français sur le Tour d'Italie. Voilà les gars, on fera le bilan évidemment la semaine prochaine dans le peloton RMC, puisque ce sera notre nouvelle appellation. Rejoignez le peloton, on a des leaders, on a des sprinteurs, on a certains qui sont plutôt dans la voiture balai, dans l'équipe.
Tu veux dire des capitaines de route?
Des capitaines de route. Et on a certains qui ont surtout le style sur le vélo. Salut Pierre.
C'est lui qui parle.
Merci
pas
Pierre.
Pas les watts, mais le style.
Pas les watts, mais le style. Bon, ça marche pour tout le monde, je pense, dans l'équipe. Merci Pierre, merci Christophe, merci Jérôme, merci Pierre-Yves. On se retrouve lundi prochain pour débriefer ce Giro. Restez connectés à Grand Plateau.